Donc, on continue le déroulement de la messe. Après la liturgie de la parole, on arrive à la liturgie eucharistique. Donc, on va le faire en deux fois au moins, cette fois et la fois prochaine. Donc, aujourd'hui, ce sera plutôt l'offertoire ou la préparation des dons et la préface. Donc, je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Et puis, la fois prochaine, ça sera la prière eucharistique, la communion. Voilà. Alors, donc là, avec la liturgie eucharistique, c'est vraiment le cœur de la messe. Alors, vous savez, on l'a déjà évoqué, hein, il y a les deux tables de la parole et du corps de Jésus, de l'Eucharistie. Donc, le Concile a pas mal parlé des deux tables. C'est pour ça que quelquefois, on essaie de faire en sorte, c'est pas toujours le cas, mais que le lambon soit un peu du même style que l'autel pour rappeler que bon, voilà, ça va un peu ensemble. Ceci dit, malgré tout, la liturgie eucharistique, c'est un pas supplémentaire quand même dans la liturgie de la parole conduit à la liturgie eucharistique. Donc, c'est vraiment le sommet de l'action sacrée, la liturgie eucharistique. Alors, des remarques qui sont quelquefois faites, c'est que on s'étend beaucoup sur la liturgie de la parole, on parle beaucoup, et puis après, là, on accélère quand on arrive à la liturgie eucharistique, ce qui n'est pas tout à fait juste par rapport à l'importance relative. Donc, normalement, il faudrait que ça garde une proportion quand même. Et dans la prière eucharistique elle-même, dans la liturgie eucharistique elle-même, donc il y a tout un mouvement aussi. Donc il y a l'offertoire, la préface, la prière eucharistique, et puis il y a la communion. Donc c'est vraiment le cœur de la messe. Hein, il se produit deux choses, on va dire, pour faire simple, dans la liturgie eucharistique, on rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix, et c'est le pain qui devient le corps de Jésus, le vin qui devient le sang de Jésus. Donc c'est un peu ces deux choses-là. Le jeudi saint, on fait davantage mémoire justement du sacrifice de la croix, hein, puisque Jésus s'est offert librement, alors on voit que c'est bien libre le jeudi saint. Et tandis qu'à la fête du Corpus Domini, de la fête Dieu, c'est davantage la présence, le corps et le pain qui est devenu le corps de Jésus. On souligne davantage cet aspect-là. Mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, j'arrive tout de suite dans la préparation des dons. Alors, là, je vais d'abord parler des racines juives de cette préparation des dons. Alors, on l'a déjà évoqué au début de l'année, hein, c'est que la messe a des origines dans la liturgie juive. Et là, ça se présente d'une manière particulière dans l'offertoire. Alors, c'est plus juste de dire la préparation des dons que l'offertoire, mais bon, on a l'habitude de dire comme ça, mais voilà. La veille du sabbat et jour de fête, le père de famille prononce la bénédiction du kiddush. Elle comporte une bénédiction sur le vin, une bénédiction du jour et une bénédiction sur le pain. Alors, il y a plusieurs coupes aussi, on avait vu ça dans le seder, il y a plusieurs coupes, mais... Et alors, voilà les formules de présentation. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as créé le fruit de la vigne. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein. Mais ça, c'est chez les Juifs, hein. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as tiré le pain de la terre. Voilà. Donc vraiment, il y a des origines vraiment, on n'a pas tout inventé et on n'est pas pareil. Les apôtres sont pas partis de zéro Alors, il y a juste une nuance au passage, c'est que le missel romain ajoute la mention du travail des hommes. Dans les formules juives, on ne parle pas du travail des hommes. C'est Dieu qui nous a tout donné, mais dans notre liturgie, on parle aussi du travail des hommes. C'est le pain et le vin, vous ne le trouvez pas comme tel dans la nature, mais bon, il y a un travail qui fait que ça devient du vin. Et le pain a fortiori. Voilà. Et la réponse, alors, tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, etc. La réponse de l'assemblée, c'est béni soit Dieu maintenant et toujours. Ça, c'est une formule qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Hein, vous pouvez le retrouver dans le psaume 88, par exemple. Donc, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus. Ce qui est intéressant avec l'offertoire, c'est que on est invité à ne pas rester spectateur. Alors, déjà dans la parole de Dieu, à un certain moment, il y a la proclamation de la parole, et après, il y a notre réponse par le credo. Voilà, on n'est pas appelé à être purement passif pendant la messe. Mais là, c'est encore plus vrai de l'offertoire. L'offertoire ne se fait pas sans que, quelque part, on donne nos cinq pains et nos deux poissons. Après, c'est le bon Dieu qui s'occupe du reste, qui fait la multiplication, mais il veut une participation de notre part. Et je trouve que c'est... Et dans l'offertoire, c'est vraiment un moment particulier où on offre... C'est le moment de la quête aussi, un moment très important, bien entendu. Mais, alors... La quête, originellement, alors c'est le pain et le vin d'abord qui sont offerts. Il y a une époque, encore assez récemment, il y en a qui collectaient le blé dans les fermes pour le blé eucharistique. Maintenant, ça se fait moins et ça a perdu un peu de son symbolisme parce que s'ils demandent un billet à la place du blé, bon, ça n'a pas le même sens. Mais de savoir que mon blé servira à confectionner des hosties, ça a plus de sens que simplement mon billet de... Voilà, donc, mais alors du coup, quand même, dans cette offertoire, c'est vraiment un moment où on est appelé vraiment à donner quelque chose de nous-mêmes. Et alors, au-delà du pain et du vin, il y a une époque, on pouvait apporter un poulet, des fruits, tout ça. Alors, quelquefois, il y a des professions de l'offertoire où on met en évidence aussi d'autres dons que simplement le pain et le vin. Au passage, peut-être un petit mot sur le chant d'offertoire. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un chant qui correspond un petit peu à ce qu'on est en train de vivre. Hein, donc le chant d'offertoire, ça n'a rien à voir avec le chant d'entrée de la messe. Hein, le chant d'entrée de la messe, normalement, c'est pas fait pour nous endormir. Enfin, le chant d'offertoire non plus. Mais en même temps, le chant d'offertoire, c'est un chant beaucoup plus méditatif qui est là pour nous aider à préparer les dons, etc. Donc, aussi bien dans les paroles que dans la musique, c'est pas la même chose que le chant d'entrée ou que le chant d'envoi. Hein. Ça paraît une évidence, mais bon, ça fait pas de mal quelquefois de redire des évidences. Hein. Et le chant, c'est pas non plus uniquement pour meubler le silence. Hein. C'est vraiment pour nous aider à vivre ce moment-là. Hein. C'est pas on évite qu'il y ait du silence, ça fait un peu triste. Donc non, c'est vraiment pour nous aider à bien vivre ce moment. À l'occasion de la préparation des dons, je voulais vous évoquer quelques objets qui servent pour la liturgie. Alors, c'est un registre complètement différent, mais j'ai affaire à des professionnels, je pense, donc vous savez tout. Et donc, il y a l'autel... Hein, on l'a un peu évoqué au début quand on a parlé de la messe, mais alors normalement il est recouvert d'une nappe, hein, comme une table aussi du banquet eucharistique. Il y a des cierges. Au passage, donc normalement sur l'autel, alors il y a des liturges qui deviennent fous quand ils voient qu'on pose n'importe quoi sur l'autel. Non, l'autel c'est vraiment un lieu sacré. Alors bien sûr. Comme on n'a pas une très bonne vue, on pose le missel quand même sur l'autel, mais c'est plutôt pratico-pratique. Mais après, par exemple, pour les mariages, normalement, on ne pose pas les registres sur l'autel. C'est plus notre table. Parce que l'autel, c'est vraiment le symbole du Christ, et alors, ce n'est pas une table comme les autres. Hein, donc, il y a un respect vis-à-vis de l'autel. Je le fais en passant. Après, si vous avez des questions plus précises, ben, n'hésitez pas. Il y a les vases sacrés. Et alors, après le Concile Vatican II, il y a eu un peu des modes un peu diverses et variées. Maintenant, c'est redevenu un peu plus classique. Hein, mais donc, non, autant que possible en matière précieuse ou noble. Autant que possible. Vous savez, un trésor qui est dans la dans la sacristie de Saint-Pierre une boîte de sardines. Et cette boîte de sardines a servi pendant des camps de concentration, ça servait de calice, ils n'avaient pas autre chose. Et du coup, bon, mais c'était des circonstances particulières, bien évidemment. Et du coup, on imagine la ferveur avec laquelle ils célébraient, voilà. Mais normalement, donc, c'est en matière précieuse ou noble. Donc, il y a la patène, oui. Quelquefois, ils sont en bois d'olivier, mais l'intérieur, c'est la coupe est l'extérieur est en bois d'olivier, mais il y a une coupe en or. Alors après, on trouve de tout, hein, donc je. Mais normalement, il faut que ce soit un matériau noble. Alors, par exemple, il y en a qui prennent du cristal. Alors c'est noble, c'est bien, c'est un peu fragile quand même. Donc, mais en tout cas, on appelle ça les vases sacrés. Ce qui est important, c'est que c'est pas le bol que je sors de ma cuisine, voilà. Ça doit traduire aussi notre respect, etc. Alors après, on n'est pas. Quelquefois, à la limite, je préférerais un calice en beau bois d'olivier plutôt qu'un vieux calice qui est doré, mais un peu vieillot et un peu, enfin, dédoré à l'intérieur, tout ça. Bon. L'important, c'est que vraiment il y ait ce sens du sacré, ce sens du. Voilà, on ne prend pas n'importe quoi pour. Et que ça soit un minimum solide et, voilà, et respectueux. Donc il y a la patène, hein, c'est pour qui reprend une assiette en quelque sorte, qui est plus pour l'hostie du prêtre, et si possible l'hostie des fidèles, aussi les hosties des fidèles, et puis le calice pour le. Qui reçoit le vin qui devient le sang de Jésus. Et puis le ciboire, donc il y a avec son couvercle. Vous saurez tous les mots si vous ne les saviez pas déjà. Alors souvent, il est surmonté d'une croix. Alors, d'habitude, le ciboire fermé est recouvert d'un pavillon. Le mot désigne originellement une tente de campement utilisée par les armées. Posée sur le ciboire, cette étoffe circulaire a véritablement la forme d'une tente romaine. Voilà. Là, voilà. Bon, mais je m'étends pas outre mesure. Donc, il y a l'autel, il y a les vases sacrés, les linges d'autel. Alors, vous êtes des pros des linges d'autel. Donc, il y a le corporal. Le corporal, c'est là où on pose la patène, le corps de Jésus. Alors, ce qui est intéressant, c'est au passage, hein, le corporal. Donc il est plus ou moins grand. Normalement aussi, pour éviter les distractions du prêtre, normalement tout ce qui va être consacré est sur le corporal. Voilà. Donc on sait, c'est implicite tout ce que toutes les hosties qui sont. Mais si la réserve d'hosties qui est sur le côté de l'autel, non, ça ne sera pas consacré. Hein, c'est important d'être. Bon, c'est un peu. Je rentre peut-être un peu trop dans les détails, mais voilà. Après, il y a dans le corporel le purificatoire. Ça, c'est le linge qui sert notamment à essuyer le calice après la communion, hein, donc la purification. Et puis, voilà. Il y a le manuterge, hein, c'est pour s'essuyer les doigts. Après le lavabo, exactement. Je vois que les dames parlent beaucoup sitôt qu'on parle du linge d'hôtel. Alors, de fait, on purifie le linge, pas les manuterges, mais le corporal. Et normalement, on le trempe dans l'eau, on va jeter l'eau, on ne la met pas à l'égout, mais voilà. Après, il y a un certain rituel qui manifeste le sens du sacré. Tout ça, c'est manifeste, voilà, c'est pas. Et puis, il y a la pâle. La pâle, c'est la pièce en carton. Souvent, c'est en carton, recouvert d'un tissu qu'on pose. Ça sert notamment pour qu'il n'y ait pas des mouches ou des choses comme ça qui viennent dans le calice pendant le. Pas P-A-L-E. Mais il n'y a pas d'accent circonflexe. Il n'y a pas d'accent. Non, on n'est pas pâle. Il n'y a pas d'accent circonflexe. le manu terge. Manu comme la main et le manu terge. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que, voilà, en même temps, voir ces vases sacrés, ces linges, tout ça, on traduit aussi une forme de respect. On prend pas le torchon de la cuisine, et puis voilà. Voilà, c'est une manière de manifester notre respect. Alors, après, encore plus important dans la préparation des dons, c'est le pain et le vin. Alors, quel est le pain ? C'est du pain azim, donc qui lève pas. Alors ça, c'est pour l'Église, c'est l'Église occidentale, l'Église latine. En Orient, ils prennent aussi du pain levé. Bon, c'est valide, mais et avec du froment. Hein, c'est pas une galette de riz. Alors, il y a eu des tas de discussions à ce sujet-là, mais c'est encore assez récent. En 2004, il y a une instruction, Redemptionis Sacramentum, qui redit le Saint Sacrifice Eucharistique doit être célébré avec du pain azim de pur froment et confectionné récemment en sorte qu'il n'y ait aucun risque de corruption. Ça pose la question des personnes qui sont intolérantes au gluten. Est-ce qu'il peut y avoir des... Alors, vraiment, c'est très précis. Hein. C'est une instruction de Rome de juillet 2003. Les hosties totalement privées de gluten sont une manière invalide pour la célébration de l'Eucharistie. Alors, on peut appauvrir le taux de gluten. Alors, à partir de ça, je ne saurais pas vous dire, mais... sont par contre valides, matière valide, les hosties partiellement privées de gluten et celles qui contiennent la quantité de gluten suffisante pour obtenir la panification. Voilà. Sans que l'on y ajoute des matières étrangères et qui n'ont pas été confectionnées selon des procédés susceptibles de dénaturer la substance du pain. Autrement dit, il faut que ça soit du pain. Grosso modo, c'est ça. Souvent, traditionnellement, c'est beaucoup des sœurs contemplatives qui... Alors maintenant, il n'y a pas que les sœurs contemplatives, il y a beaucoup de... Il y a même des... Alors, il y a la possibilité de recevoir le précieux sang. Et là, quelquefois, il y a une petite cuillère aussi qui peut servir. Alors, à l'arche... À Trolley, ça se faisait beaucoup pour certaines personnes qui ne pouvaient pas. Voilà. Et alors, du pain et du vin. Alors, là aussi, je vous passe tous les détails. Il faut que ça soit vraiment le produit de la vigne. Pour la célébration de l'Eucharistie, le vin produit la fermentation du jus de raisin doit être naturel et pur. Alors, je vous lis le code de droit canonique, canon 924, si ça vous intéresse. Le très saint sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d'eau doit être ajoutée. Le pain doit être de pur froment, voilà. Le vin doit être du vin naturel de raisin et non corrompu. Si c'est du vinaigre, c'est plus du vin. Voilà.
Et quelle est la signification des trois gouttes d'eau ?
Alors, on y viendra après, que vous avez hâte de tout savoir. Alors, on parle quelquefois des saintes espèces pour parler du... oui, allez-y.
Donc, le
parcours
du vin de l'Amical, 100% de Jésus dans chaque espèce. Est-ce qu'on peut célébrer avec du vin ou est-ce que pour la célébration, il faut forcément...
Non, pour la célébration, il faut obligatoirement les deux. Aussi parce que la consécration séparée du pain et du vin signifie la mort de Jésus. Hein, parce que quand on... Alors surtout pour les Juifs, hein, le sang, c'est la vie aussi qui... Donc, non, pour la messe, il faut... Et le pain et le vin. On ne peut pas faire une messe seulement avec du vin ou seulement avec du pain. Non, ce n'est pas possible. En revanche, pour la communion, si on reçoit le corps de Jésus, l'hostie, on reçoit Jésus en entier. Si on reçoit le sang de Jésus, on reçoit Jésus en entier. Voilà. Alors, toujours dans l'offertoire, le déroulement. Alors maintenant, on va bientôt arriver à la question de la goutte d'eau. Le déroulement de l'offertoire, donc il y a la procession des offrandes qui a été remise en valeur par le Concile Vatican II. Voilà, et ça reprend une tradition très ancienne où les fidèles apportaient quelque chose et c'est très significatif. En lien avec ça, c'est significatif, non, on ne le fait pas ici, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse, que faire la quête à ce moment-là, on ne le fait pas ici, on le fait à la fin, mais voilà, ça a plus de sens de le faire au moment de la préparation des dons. Alors, la goutte d'eau. Alors, vous connaissez la phrase que dit le prêtre, hein, « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Alors, pour les orientaux, l'eau signifie les deux natures du Christ, hein, l'humanité et la divinité qui s'unit à la divinité. Alors, voilà ce qui est dit. Je vais aller jusqu'au bout. Pour les latins, en fait, c'est plutôt l'union de l'Église au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas les deux natures du Christ, c'est plutôt notre... C'est nous, c'est notre participation. La goutte d'eau dans le calice, c'est nous qui... c'est pas... Voilà, c'est notre manière d'associer tout ce qu'on vit au sacrifice de Jésus. Hein, donc, cette goutte d'eau, c'est notre participation... Alors, là où il faut faire un petit peu attention, alors c'est une image aussi, donc l'eau se mêle au vin, mais pour les orientaux, quand ils parlent des deux natures du Christ, les natures, c'est sans confusion. Hein, donc, et nous, si on s'unit à Jésus, on reste nous quand même. Hein, c'est juste de préciser qu'on ne se dilue pas en Jésus, on reste nous. Hein, sinon on arrive à quelque chose d'un petit peu étrange qui n'est pas dans notre foi. Hein, je vous lis. Il faut confesser un seul et même Christ et Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Voilà, c'est dire qu'on fait qu'un avec Jésus, mais en même temps tout en restant nous-mêmes. Ah ben, il y a une belle phrase. Ça, ça vient de Saint Cyprien. Nous voyons que par l'eau, c'est le peuple qu'il faut entendre, et par le vin, le sang du Christ. Quand on mêle l'eau au vin dans le calice, c'est le peuple qui ne fait plus qu'un avec le Christ. C'est la foule des croyants qui se joint et s'associe à celui en qui elle croit. Ainsi donc, quand on consacre le calice du Seigneur, on ne peut pas plus offrir l'eau toute seule que le vin tout seul. Si on n'offre que le vin, le sang du Christ se sépare de nous. S'il n'y a que l'eau, c'est le peuple qui se sépare du Christ. Donc, c'est ce signe au moment où on va entrer justement dans la prière eucharistique. Voilà. Alors, il y a l'encensement, il y a humbles et pauvres, hein, et le lavement des mains, le lavabo, comme vous avez dit. C'est ce sens... Alors qu'on n'a pas toujours, quelquefois on y va un petit peu décontracté, disons, mais qu'on n'est pas digne de célébrer les mystères du Seigneur. Alors, au début, ça avait peut-être un but très précis. Le lavabo, c'est quand on avait apporté des poulets et tout ça, c'était pas inutile de se laver les mains avant de passer à la suite. Mais bon, après on a spiritualisé les choses, et voilà. Ah, alors, la prière aussi, est toujours l'offertoire, et après je m'arrêterai aussi pour l'offertoire. Et maintenant, on a deux possibilités pour la prière hein, à la fin de l'offertoire. Bon, il y a la prière sur les offrandes, mais avant, c'est prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et alors, et ça c'est chez les Français qu'on a ça, parce que dans le latin, il n'y a pas cette formule-là, je pense pas. Et moi, j'aime beaucoup pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est assez concis et je trouve que c'est très beau. Mais alors, du coup, et c'est en préparant que j'ai mieux pris conscience de ça. Là, on fait vraiment le peuple de Dieu qui participe, fait vraiment encore avec le prêtre. Hein. Dans l'autre formule, qui est mise en valeur depuis le nouveau missel, hein, qui était dans le missel latin, hein, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, hein, priez. Et alors, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, hein, c'est pas, on ne dit pas que notre sacrifice, mais donc on distingue plus le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce du prêtre dans cette formule qui vient du missel latin.
C'est le prêtre qui choisit la formule.
Oui, selon que ça l'inspire. Selon que ça l'inspire ou pour un petit détail, quand je suis juste avec les frères, parce que il y en a un, c'est frères et sœurs. Alors quand il n'y a que les frères, sinon, comme le je confesse à Dieu, oui, mais les sœurs, elles sont où là? Bon, c'est vraiment le détail, hein, là. Bon, mais du coup, je trouve que c'est intéressant de voir. Du coup, il y a ces deux formules qui sont possibles. L'Église nous permet ces deux formules, mais qui mettent des accents un peu différents. Juste pour faire écho, ça m'a rappelé une des paroles de Jésus. Est-ce que Jésus dit notre Père? Alors, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Mais après, dans Saint Jean, il dit, mon Père est votre Père. Hein, donc, il ne dit pas notre Père avec nous, parce que ça... bien sûr qu'on est enfant de Dieu, mais pas exactement comme Jésus quand même. On n'est pas par nature. Hein, on n'est pas enfant de Dieu par nature. Voilà, alors, quelque part, on est tous prêtres aussi. Par notre baptême, on est prêtres, mais ce n'est pas le même sacerdoce ministériel ou sacerdoce des fidèles. Donc, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Du coup, voilà, c'était juste cette petite annotation. Donc, maintenant, je vais vous parler de la préface. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, je n'ai pas beaucoup insisté depuis le début sur les postures physiques pendant la messe. Mais elles veulent dire quelque chose aussi, les postures physiques. Déjà, vous voyez, au début, on est plutôt debout pour demander pardon. Certains peuvent peut-être se mettre à genoux même, je ne sais pas. Mais et puis après, pendant les premières lectures, on est assis. Et pour l'évangile, voilà, on se lève... Donc, ça manifeste une importance particulière. Là, pendant l'offertoire, pendant la préparation, on est assis paisiblement. Et là, à la fin, on se lève. Pour la préface, on est debout. Et c'est pas insignifiant. Et après, quand on entre dans la prière eucharistique, après le Sanctus, beaucoup se mettent à genoux. Donc, par notre posture corporelle aussi, on peut exprimer aussi quelque chose de notre sens, voilà, de ce qui est en train de se passer, et voilà. Après il y a une certaine liberté pour tous ces gestes, mais je trouve que c'est beau de voir que ça signifie quelque chose aussi, et donc il y a quelque chose de plus solennel. Préface, alors vous avez des préfaces dans les livres, hein, dans un livre, voilà, c'est avant le début du livre proprement dit. Donc, ça donne déjà un éclairage sur l'auteur, sur le livre, etc. Alors, dans la liturgie, voilà, on est juste au seuil. C'est vraiment pour nous préparer avant de... C'est une introduction dans le sens où, pour nous mettre en mouvement, hein, c'est pas seulement un préliminaire, c'est vraiment pour nous mettre en mouvement, pour être à même de participer à la prière eucharistique. Voilà ce que dit la présentation générale du missel romain. C'est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute célébration. Alors là, encore, je vais faire un petit retour chez les Juifs, parce que la préface, on la trouve d'abord chez les Juifs. Les 18 bénédictions chez les Juifs, c'est une des prières fondamentales qui est récitée le matin, l'après-midi et le soir des jours ordinaires. Alors, je vous cite un des passages. « Les multitudes célestes couronnent avec les assemblées d'ici-bas. Ensemble, ils acclameront par trois fois ta sainteté. Selon ce que dit le prophète, ils criaient l'un à l'autre, en chantant « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, la terre est pleine de sa gloire. » Voilà, alors c'est... Et le texte de la première des deux bénédictions qui amène à la récitation du Shema Israël, hein, que récitent les Juifs, a inspiré la préface de la quatrième prière eucharistique. Hein, pour voir notre héritage aussi. Je vous en cite juste un passage, mais ils ont pas mal d'inspiration. Hein, mais... Alors, « Sois béni notre rocher, notre roi, notre rédempteur qui crée les anges saints. Que soit glorifié ton nom dans l'éternité, notre roi qui crée les anges. Tes anges se tiennent dans les hauteurs de l'univers. Ils proclament ensemble avec crainte à pleine voix les œuvres du Dieu vivant et du roi de l'univers. Tous sont saints, tous élus, tous puissants, tous accomplissent avec respect et crainte la volonté de leur Créateur. Tous ouvrent leur bouche avec sainteté et pureté. Ils chantent mélodieusement, ils bénissent, ils glorifient, ils magnifient, ils adorent, ils proclament le roi saint et le nom de Dieu. Et tous ensemble, ils prennent sur eux le joug du règne des cieux et s'exhortent mutuellement à la louange de leur Créateur, en toute paix spirituelle, avec des lèvres dignes et saintes suavité, tous d'une voix unanime, se répondent avec vénération et respect en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, la terre est pleine de ta gloire. » Je vous cite pas tout, mais ça vous dit, les apôtres n'ont pas tout inventé, ou les premiers chrétiens pour la messe. Donc cet enracinement chez les Juifs, et puis après, quelques mots sur le dialogue qui a introduit la préface. Hein, le dialogue, vous connaissez, « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. » Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Est-ce qu'on trouve ça que dans la messe? C'est une colle. Il y a un autre moment dans l'année où on le trouve, et je trouve que c'est intéressant de faire le rapport, c'est juste avant l'exultète. La vigile pascale, on entre avec le cierge pascal, alors ici on le fait grandeur nature, hein, puisqu'on a... Et on arrive, et... Alors on arrive, alors il y a d'abord une petite introduction, et à un certain moment, quand il y a un diacre, c'est le diacre, sinon c'est le célébrant, le Seigneur soit avec vous, mais pour l'annonce de Pâques. Donc c'est une préface pour la... Donc c'est pas une... Bon, c'est le seul cas que je connaisse, en tout cas, où on a cette préface, qui est très ancienne, cette préface du siège, de l'annonce de Pâques. Avant les lectures. C'est quand vous arrivez dans l'église, vous... Oui, exactement. Le cierge, c'est le symbole du Christ ressuscité. On arrive dans l'église et c'est la première chose qu'on fait en arrivant dans l'église. Il y a ce chant d'une forme de préface. L'exultète, c'est le lieu où on dit « Heureuse faute qui nous venue un tel rédempteur ». Ça reprend... donc c'est une pièce maîtresse dans l'année liturgique. C'est l'annonce de la résurrection qui a tout changé. Il y a un avant et un après. Et alors, pour cette annonce de la résurrection qui est si importante, à ce moment-là, il y a une sorte de préface. Voilà, un dialogue pour annoncer cette bonne nouvelle. On avait déjà dit un petit peu sur la formule « Le Seigneur soit avec vous ». On en avait un petit peu parlé au début de la messe, hein, quand, voilà, donc je vais peut-être pas revenir dessus. Après, c'est « Élevons notre cœur, sursum corda ». Je trouve que c'est assez beau aussi de... Voilà, déjà, on était assis, on s'est mis debout, allez. Et quelque part, il y a une exhortation, voilà. Et alors, on peut le traduire de plusieurs manières, sursum corda, hein, élevons notre cœur. C'est un peu comme ce que dit saint Paul, rechercher les choses de là-haut. C'est plus le moment de penser à votre rôti qui est dans le four. C'est pas le moment, là, c'est vraiment le moment. Délaisser pour un instant tous vos soucis terrestres pour n'être présent qu'à Dieu qui... Et je trouve que c'est beau de l'entendre comme ça. Je vous cite Saint-Cyprien, que j'ai cité tout à l'heure. que l'on retranche toute pensée charnelle et temporelle pour n'avoir de soucis que des choses de Dieu, que l'âme ne pense à rien d'autre qu'à ce qui fait l'objet de la prière eucharistique. C'est pourquoi le prêtre, avant la prière eucharistique, prépare les âmes des frères par une sorte de prologue en disant « Élevons notre cœur !» pour que, quand le peuple a répondu « Nous le tournons vers le Seigneur », ce soit une exhortation à ne penser qu'au Seigneur. Et après, donc, c'est « Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon ». En fait, ce n'est pas le texte latin, c'est « Cela est digne et juste ». Alors, il y a quand même le mot « juste hein, », c'est une manière de reconnaître ce que Dieu a fait. Alors maintenant, peut-être sur la préface elle-même. Alors je trouve que c'est très beau la préface. Ce qui est intéressant, alors je vous ai mis sur une feuille quelques exemples de préface. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est pas quelque chose de vague la préface. Alors, ben, je vous dirai combien il y a de préfaces. Là, il n'y en a qu'une petite partie de ces. Je vous dirai combien il y a de préfaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez. Alors, si on prend la première, je n'ai pas mis la troisième partie, hein, c'est pourquoi tout ça. Mais il y a l'introduction de la préface qui est toujours un peu la même. C'est un peu stéréotypé, voilà. Vraiment, il est juste et bon de te. Alors vraiment, ça revient, c'est assez présent chez les Juifs encore. Voilà la troisième bénédiction récitée après le Shema. C'est vrai et certain, stable et permanent, droite et fidèle, aimé, vénérable, etc. Vraiment, Dieu de l'univers subsiste de génération. Vraiment, tu es le Seigneur. Vraiment, tu es le Seigneur de ton peuple. Vraiment, tu es le premier et le dernier, etc. Donc c'est. Et du coup, c'est un peu stéréotypé, la première partie. On l'a, grosso modo, où il y a des petites différences. Et c'est par le Christ, hein, toujours. Hein, c'est adressé au Père. La prière eucharistique, elle est vraiment adressée au Père. Et on le retrouve dans la grande doxologie. Hein. C'est adressé au Père, c'est lui qui est notre interlocuteur, mais c'est par lui, avec lui, en lui, par Jésus. Hein. C'est vraiment par Jésus. Mais on trouve déjà ce par Jésus ici, qui est le médiateur par excellence, l'unique médiateur qui est. Voilà. Alors ça, c'est un peu stéréotypé la première partie. En revanche, la deuxième partie. Là, c'est celle qui change souvent, cette deuxième partie. Et vous êtes des adeptes de la louange ou pas? Mais quelquefois, les gens, quand ils disent « Bon, béni sois-tu Seigneur, loué sois-tu parce que tu es bon », et puis après, oui, mais c'est un peu pauvre, quelquefois, notre louange. Et je trouve très beau de, justement, si pour nourrir votre louange, ben, prenez des préfaces, parce qu'ils ne se disent pas simplement. Mais à chaque fois, dans chaque préface, c'est les motifs pour lesquels on rend grâce, les motifs pour lesquels on loue le Seigneur. Et je trouve que c'est intéressant de voir. Alors, je suis allé voir, par curiosité, je ne le savais pas par cœur, hein, par curiosité, je suis allé voir combien il y avait de préfaces. À votre avis, combien il y a de préfaces? Ben oui, c'est à peu près ça. Mais je pense qu'il en manque l'une ou l'autre. J'en ai trouvé 98. Mais du coup, je me dis, du coup, ça fait au moins 98 motifs de louange, etc. Et cette partie centrale, je vous invite beaucoup à vous en nourrir dans votre prière. Déjà parce que souvent, c'est un résumé théologique de la fête qu'on est en train de célébrer. Alors, dans cette partie variable, on va dire, de la préface, la préface précise ce que Dieu a fait, comment il l'a fait, pourquoi cela nous sauve, ce que cela nous révèle de lui. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas, pour la gratitude, il y en a qui ont fait le parcours de la gratitude parmi vous, non? Il faut aller jusqu'au bout. Et dans la gratitude, je trouve que c'est intéressant, c'est pas simplement de dire merci à Dieu, c'est dire pourquoi on dit merci. Mais comme vous dites merci à votre mari, c'est bien de lui dire merci, mais c'est beau de détailler pourquoi vous lui dites merci. Ça a beaucoup plus de poids quand vous exprimez votre gratitude de dire pourquoi vous dites merci. C'est pas simplement un merci un peu général et voilà, mais de préciser les motifs. Et du coup, je trouve que cette partie variable, cette partie de la préface que retrouve, est très précieuse pour ça, parce que ça nous aide à sortir un peu du flou, mais d'être plus précis dans notre louange.
Est-ce qu'il y aura des nouvelles préfaces ou comment les a ces 98?
Alors, je vous précise, 98 préfaces. Ah non, ça c'est l'Église, elles nous sont proposées. C'est vrai qu'il y a une époque peut-être, chacun a inventé sa prière eucharistique, on n'en est plus là, heureusement, et la préface non plus. Mais du coup, l'Église propose des préfaces. Alors je vous en ai mis juste une dizaine là, de préfaces, qui ça peut vous inspirer éventuellement. Par exemple, une pour l'Avent. Il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir. Il viendra de nouveau, refus-tu de sa gloire, hein, la venue dans l'humilité de la chair, et puis il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Voilà. Alors, puisqu'on est à la préface du carême, alors du coup, à quoi ça sert le carême? Alors, on loue Dieu. Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. Il y a d'autres préfaces, encore une autre du carême. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. Je trouve que c'est intéressant. Ce cœur de la préface, ça nous dit un petit peu aussi le temps qu'on est en train de vivre, etc. Donc c'est assez précieux pour ça. Par exemple, la transfiguration, c'est intéressant. Il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis. Le jour où son corps semblable au nôtre fut revêtu d'une grande lumière, il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Voilà. Alors, toujours ces préfaces, ça peut vous nourrir. Alors, j'aime bien celle de la Trinité aussi. Bon, on ne va pas toutes les prendre, hein, mais... J'aime bien celle des saints, entre autres. Hein. Alors, encore le motif, la première préface des saints. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, dans leur intercession, un appui. Ça me donne les trois points pour l'homélie. voilà. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Ça nous dit aussi le sens des saints. Pourquoi on célèbre les saints? Alors là, vous le savez dans la préface. Et je trouve ça très beau. Du coup, le jour de la Toussaint, n'hésitez pas à prendre la préface. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les modèles que tu nous as donnés. Et béni sois-tu, parce que je peux être en communion avec eux aussi. Je peux vraiment, j'ai une famille au ciel, pas seulement sur la terre. Et voilà.
Quand il y en a deux comme ça,
c'est comme ça. Oui, c'est exactement. Le prêtre peut choisir. Il choisit parmi celles qui sont proposées. Alors, dans le carême, il y a peut-être, je sais pas, peut-être cinq préfaces, je me rappelle plus. Voilà, mais pour revenir au nombre de préfaces, attendez. 43 préfaces pour Avant, Noël, Carême, Pâques, etc., temps ordinaire. 12 préfaces pour les fêtes et mystères du Seigneur, dont Transfiguration, Croix glorieuse, etc. 19 pour les fêtes des saints. Alors, il y a une préface globale, mais après, Saint Jean-Baptiste a droit à sa préface, Saint Pierre et Paul ont droit à leur préface. 10 préfaces aussi pour les messes rituelles. c'est pour l'ordination, pour le mariage. Mais là encore, ça peut être très, très intéressant de voir. Et 14 pour d'autres célébrations, les funérailles, ou, voilà. Donc, du coup, l'intérêt de ces préfaces, justement, c'est de pouvoir vraiment voilà, avoir le sens de la fête et puis de le prendre dans la prière, peut-être pour nourrir notre prière et pour... et de nourrir notre louange pour qu'elle ne soit pas trop répétitive. Vous connaissez, alors ce n'est pas une préface, hein, c'est le psaume 135. Le refrain, c'est « Car est éternel et son amour ». Mais quelque part, du coup, il voit tous les motifs pour lesquels rendre grâce, tous les motifs pour lesquels louer le Seigneur. Et du coup, je pense que la préface peut nous éduquer à la louange. Voilà. Et après, on arrive au Sanctus. Vous savez d'où vient le Sanctus ? C'est au chapitre 6 du prophète Isaïe. Hein, c'est exactement. Et avant le charbon ardent... L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est voir aussi quand Isaïe raconte ça, c'est vraiment la vision qu'il a de Dieu. Alors, comme si, en arrivant, voilà, on entre au terme de la préface, voilà, on est à même d'entrer dans le cœur de la messe. Où, alors, à certains endroits, ça peut se passer derrière, là, parce que c'est sacré, etc. Pour, en tout cas, pas chez les catholiques latins, mais en tout cas, c'est... Oui. Mais des chrétiens orientaux aussi, qui les chrétiens. Il y a, dans la liturgie catholique, elle n'est pas seulement latine ou romaine, mais elle peut être...
Ils ont le même rythme, ils ont votre consécration.
Ah ben, ils ont une consécration, hein, mais alors après, on est un peu perdu parce que ça ne se déroule pas comme nous, hein, mais... ce que je vous explique, c'est ce que je connais plus ou moins, c'est la messe en rite romain, notre missel. Après, là, je ne suis pas qualifié pour vous... Mais alors, d'une part, il y a le Sanctus, hein, dans le Saint-Saint-Saint qui vient d'Isaïe, mais il y a aussi le Hosanna au plus haut des cieux. D'ailleurs, c'est une de vos nièces qui ne comprenait pas très bien ce qu'on chantait. Hosanna au bureau des cieux. Voilà. Ses parents n'avaient pas dû lui expliquer Hosanna. Mais donc, ça reprend le Hosanna au fils de David, de l'entrée dans la passion. Donc, ça a beaucoup de signification aussi, juste en entrant dans la prière eucharistique, à la fois ce moment où on est au ciel, et ce moment aussi où c'est le moment de la passion, où on entre dans la passion. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est dans le psaume 117 qui est le psaume qui était censé mimer l'accueil du Messie lors de son avènement. Donc c'est bien de l'avoir à l'esprit pour quand on entre. Là, je vous amène avec la préface jusqu'au seuil de la prière eucharistique. Donc c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Mais je trouve que c'est beau en tout cas de voir ce mouvement de préparation pour nous rendre. Alors quelquefois, nous, on est un peu distrait, mais vous essayez d'y penser. Élevons notre cœur. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
C'est la même chose que quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, ou c'est un peu différent. Est-ce qu'il répète beaucoup
quand Jésus dit ? Oui. Peut-être, oui, une manière de souligner, voilà. Oui, quelquefois, dans certaines langues, on répète pour bien souligner que c'est important et que, voilà. Donc, et que c'est pas juste en passant comme ça, mais que ça marque une certaine solennité aussi, une certaine solennité.
On se lève au moment
où
le Seigneur soit avec
nous,
c'est ça.
Alors théorique, de fait, normalement, alors je ne suis pas un liturge, hein, mais normalement, on est encore assis quand le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de lait ». Vous restez assis pour répondre et si, après vous vous levez pour la prière des offrandes. Ben, juste avant. Juste avant, au moment de la prière des offrandes, vous vous levez. Alors, à la fin de la préparation des dons, c'est prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice. Vous restez assis en répondant pour la gloire de Dieu. Et après, il y a une prière pour les offrandes. Et après, c'est le Seigneur soit avec vous. Et voilà. Mais on se lève normalement juste après avoir répondu. Mais le mouvement général, c'est quand même globalement la préparation des dons, on est assis. Après, là, on se lève, on se met dans une autre position. Et certains même se mettent à genoux pendant la prière eucharistique. Mais voilà. Autre question.
Est-ce qu'on peut revenir sur le sang tous, là ?
Oui.
C'est ça, parce que vous dites « Hosanna en plein des cieux », donc on est en lien avec le ciel.
Oui. Alors, le Hosanna, ils n'étaient pas encore au septième ciel, hein, quand vous voyez que le jour des rameaux, hein, c'est plutôt l'accueil du Messie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hein, c'est vraiment l'accueil du Messie, on reconnaît Jésus à ce moment-là vraiment comme le Messie, celui qui vient nous sauver. Mais on n'est pas, je pense qu'on n'est pas encore au septième ciel. Mais béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'accueil de Jésus qui vient au nom du Seigneur pour nous sauver. On reste sur terre. Mais on est rejoint par Dieu justement qui donne sa vie pour nous.
Concrètement, les préfaces. Elles sont
en micelle. Oui. Alors, ça dépend de vos micelles. Il y a des micelles. Oui. Alors, j'ai trouvé, je peux vous envoyer ou ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé un micelle, justement, c'est là que j'ai compté les nombres de préfaces, sur PDF, là, sur. Donc, on les a toutes là. Les 98. Tu m'écris. Mais je pense que ça peut nous aider dans notre prière, la lecture des préfaces. C'est vraiment un beau. C'est assez dense quelquefois, mais. Ça va être là. Alors, bonne suite de carême.